Chapitre 5. Et si c'était le contraire qui fût vrai? Tout développement, ai-je dit, implique la négation du point de départ. La base ou le point de départ, selon l'école matérialiste, étant matériel, la négation doit en être nécessairement idéale. Partant de la totalité du monde réel, ou de ce qu'on appelle abstractivement la matière, elle arrive logiquement à l'idéalisation réelle, c'est-à-dire à l'humanisation, à l'émancipation pleine et entière de l'humaine société. Par contre, et par la même raison, la base et le point de départ de l'école idéaliste étant idéaux, elle arrive forcément à la matérialisation de la société, à l'organisation d'un despotisme brutal et d'une exploitation inique et ignoble, sous la forme de l'Église et de l'État. Le développement historique de l'homme, selon l'école matérialiste, est une ascension progressive. Dans le système des idéalistes, il ne peut être qu'une chute continue. Quelques questions humaines qu'on veuille considérer, on trouve toujours cette même contradiction essentielle entre les deux écoles. Ainsi, comme je l'ai déjà fait observer, le matérialisme part de l'animalité humaine pour constituer l'humanité. L'idéalisme part de la divinité pour constituer l'esclavage, pour condamner les masses à une animalité sans issue. Le matérialisme nie le libre arbitre, et il aboutit à la constitution de la liberté. L'idéalisme, au nom de la dignité humaine, proclame le libre arbitre et, sur les ruines de toute liberté, il fonde l'autorité. Le matérialisme repousse le principe d'autorité parce qu'il le considère, avec beaucoup de raison, comme le corollaire de l'animalité et qu'au contraire le triomphe de l'humanité, qui est selon lui le but et le sens principal de l'histoire, n'est réalisable que par la liberté. En un mot, dans quelque question que ce soit, vous trouverez les idéalistes toujours en flagrant délit de matérialisme pratique. Tandis qu'au contraire, vous verrez les matérialistes poursuivre et réaliser les aspirations, les pensées les plus largement idéales. L'histoire, dans le système des idéalistes, ai-je dit, ne peut être qu'une chute continue. Il commence par une chute terrible, et dont il ne se relève jamais, par le salto mortal divin, des régions sublimes de l'idée pure, absolue, dans la matière. Et observez encore dans quelle matière, non dans cette matière éternellement active et mobile, pleine de propriétés et de forces, de vie et d'intelligence, telle qu'elle se présente à nous dans le monde réel, mais dans la matière abstraite, appauvrie et réduite à la misère absolue par le pillage en règle de ces Prussiens de la pensée, c'est-à-dire des théologiens et des métaphysiciens qui lui ont tout dérobé pour tout donner à leur empereur, à leur dieu, dans cette matière qui, privée de toute propriété, de toute action et de tout mouvement propre, ne représente plus, en opposition à l'idée divine, que la stupidité, l'impénétrabilité, l'inertie et l'immobilité absolue. La chute est si terrible que la divinité, la personne ou l'idée divine s'aplatit, perd la conscience d'elle-même et ne se retrouve plus jamais. Et dans cette situation désespérée, elle est encore forcée de faire des miracles. Car du moment que la matière est inerte, tout mouvement qui se produit dans le monde, même le plus matériel, est un miracle, ne peut être que l'effet d'une intervention divine, de l'action de Dieu sur la matière. Et voilà que cette pauvre divinité, abruti et quasi annulé par sa chute, reste quelques milliers de siècles dans cet état d'évanouissement, puis se réveille lentement, s'efforçant toujours en vain de ressaisir quelques vagues souvenirs d'elle-même, et chaque mouvement qu'elle fait à cette fin, dans la matière, devient une création, une formation nouvelle, un miracle nouveau. De cette manière, elle passe par tous les degrés de la matérialité et de la bestialité. D'abord gaz, corps chimique simple ou composé, pierre minérale, granit, elle se répand ensuite sur la terre comme organisation végétale et animale, puis se concentre dans l'homme. Ici, elle semble devoir se retrouver, car elle allume dans chaque être humain une étincelle angélique, une parcelle de son propre être divin, l'âme immortelle. Comment a-t-elle pu parvenir à loger une chose absolument immatérielle dans une chose absolument matérielle? Comment le corps peut-il contenir, renfermer, limiter, paralyser l'esprit pur? Voilà encore une de ces questions que la foi seule, cette affirmation passionnée et stupide de l'absurde, peut résoudre. C'est le plus grand des miracles. Ici, nous n'avons pas à faire autre chose qu'à constater les faits, les conséquences pratiques de ce miracle. Après des milliers de siècles de vains efforts pour revenir à elle-même, la divinité, perdue et répandue dans la matière qu'elle anime et qu'elle met en mouvement, trouve un point d'appui, une sorte de foyer pour son propre recueillement. C'est l'homme, c'est son âme immortelle, emprisonnée singulièrement dans un corps mortel. Mais chaque homme, considéré individuellement, est infiniment trop restreint, trop petit, pour renfermer l'immensité divine. Il ne peut en contenir qu'une très petite parcelle, immortelle comme le tout, mais infiniment plus petite que le tout. Il en résulte que l'être divin, l'être absolument immatériel, l'esprit, est divisible comme la matière. Voilà encore un mystère dont il faut laisser la solution à la foi. Si Dieu tout entier pouvait se loger dans chaque homme, alors chaque homme serait Dieu. Nous aurions une immense quantité de Dieu, chacun se trouvant limité par tous les autres, et tout de même chacun étant infini. Contradiction qui impliquerait nécessairement la destruction mutuelle des hommes, l'impossibilité qu'il n'y en eût plus d'un. Quant aux parcelles, c'est autre chose. Rien de plus rationnel en effet qu'une parcelle soit limitée par une autre et qu'elle soit plus petite que son tout. Seulement ici se présente une autre contradiction. Être limité, être plus grand et plus petit, sont des attributs de la matière, non de l'esprit. De l'esprit tel que l'entendent les matérialistes, sans doute, oui, parce que selon les matérialistes, l'esprit réel n'est rien que le fonctionnement de l'organisme tout à fait matériel de l'homme. Et alors, la grandeur ou la petitesse de l'esprit dépendent absolument de la plus ou moins grande perfection matérielle de l'organisme humain. Mais ces mêmes attributs de limitation et de grandeur relative ne peuvent pas être attribués à l'esprit tel que l'entendent les idéalistes, à l'esprit absolument immatériel, à l'esprit existant en dehors de toute matière. Là, il ne peut y avoir ni de plus grand, ni de plus petit, ni aucune limite entre les esprits, car il n'y a qu'un esprit, Dieu. Si on ajoute que les parcelles infiniment petites et limitées qui constituent les âmes humaines sont en même temps immortelles, on mettra le comble à la contradiction. Mais c'est une question de foi, passons outre. Voilà donc la divinité déchirée et logée par infiniment petites parties dans une immense quantité d'hommes de tout sexe, de tout âge, de toute race et de toute couleur. C'est une situation excessivement incommode et malheureuse pour elle, car les parcelles divines se reconnaissent si peu au début de leur existence humaine qu'elles commencent par s'entre-dévorer. Pourtant, au milieu de cet état de barbarie et de brutalité tout à fait animale, les parcelles divines, les âmes humaines, conservent comme un vague souvenir de leur divinité primitive. Elles sont invinciblement entraînées vers leur tout. Elles se cherchent, elles le cherchent. C'est la divinité elle-même, répandue et perdue dans le monde matériel, qui se cherche dans les hommes. Et elle est tellement abrutie par cette multitude de prisons humaines dans lesquelles elle se trouve, parsemée, qu'en se cherchant, elle commet un tas de sottises. Commençant par le fétichisme, elle se cherche et elle s'adore elle-même, tantôt dans une pierre, tantôt dans un morceau de bois, tantôt dans un torchon. Il est même fort probable qu'elle ne serait jamais sortie du torchon si l'autre divinité qui ne s'est pas laissée choir dans la matière et qui s'est conservée à l'état d'esprit pur dans les hauteurs sublimes de l'idéal absolu ou dans les régions célestes n'avait pas eu pitié d'elle. Voilà un nouveau mystère. c'est celui de la divinité qui se scinde en deux moitiés, mais également totale et infinie toutes les deux, et dont l'une, Dieu le Père, se conserve dans les pures régions immatérielles et l'autre, Dieu le Fils, se laisse choir dans la matière. Nous allons voir tout à l'heure, entre ces deux divinités séparées, l'une de l'autre, s'établir des rapports continus de haut en bas et de bas en haut. Et ces rapports, considérés comme un seul acte éternel et constant, constitueront le Saint-Esprit. Tel est, dans son véritable sens théologique et métaphysique, le grand, le terrible mystère de la Trinité chrétienne.